Chapitre 2 La vérité sur les géants. Le lendemain, j'ai tout raconté à ma copine Poppy. Poppy est très grosse et très forte. Plus forte que les garçons de ma classe, si bien qu'ils se moquent d'elle, uniquement lorsqu'elle ne veut pas les entendre. Sinon, ça irait mal pour eux. Poppy a une toute petite tête, des lunettes, des cheveux noirs et des nattes qui lui descendent jusqu'aux reins. Elle s'habille toujours en rouge. Je ne sais pas pourquoi. Elle non plus, c'est ma copine. Je lui ai montré la valise qui, pour me faire passer pour une idiote, n'a pas prononcé un mot en sa présence. Ça n'a pas étonné Poppy. Elle m'a cru sans problème. « Les géants, ça existe ? » ai-je demandé. « Oui, » a-t-elle répondu. « De temps à autre, ils traversent la forêt, en cassant tout sur leur passage. Il paraît que l'un d'eux s'est installé ici, il y a longtemps. Les vieux du village s'en souviennent. Ma grand-mère Mathilda m'en a parlé. Paraît que ça a fait du dégât. « Pourvu que ça ne se reproduise pas, » ai-je murmuré. « Il ne faut pas croire les contes de fées, » a lancé Poppy. « Les vrais géants sont très timides. Ils ont peur des humains et les fuient comme la peste. Le danger ne vient pas d'eux, mais des hommes. Qu'est-ce que tu racontes ?»« La vérité. Le géant ne viendra pas chez nous si les gens de village ne l'y forcent pas. Seulement voilà, les humains ont trop à gagner dans l'affaire. Ils feront tout pour s'emparer de lui. » J'ai secoué la tête, n'y comprenant rien. Poppy a fait une grimace. « Je vois que tu ne sais décidément rien des géants, » a-t-elle soupiré. « Tes parents ne t'en ont jamais parlé ?»« Non. » « Les géants sont toujours habillés de la même façon, en vert. Mais ils portent sur leurs épaules une cape rouge très longue, qui traînent derrière eux en balayant le sol. Cette cape est magique. Il suffit de poser le pied dessus et de prononcer un vœu pour que ce vœu soit aussitôt exaucé. Tu comprends? Je crois. Les vœux ne se réalisent que si on a les pieds posés sur la cape. Exact. Malheureusement, les géants ne s'arrêtent jamais de marcher car ils ne dorment pas. Comme ils n'éprouvent aucune fatigue, ils n'ont pas besoin de sommeil. Alors ils marchent. Ils marchent sans cesse, jour et nuit. Et la cape traîne derrière eux, si bien qu'il est impossible pour un humain d'y poser le pied. Autant essayer de se tenir en équilibre sur la queue d'un dinosaure qui galope. Tu vois le problème. J'ai, encore une fois, hoché la tête en signe de bonne volonté. Je me sentais idiote, car Poppy, grâce à sa grand-mère, en savait plus que moi. Le seul moyen pour un homme de marcher sur la cape magique, a repris mon ami, c'est de forcer le géant à s'arrêter, ce qui, je le répète, n'est pas dans sa nature. Et comment fait-on? En ayant recours à la traîtrise. Les géants sont gourmands de pommes. Il suffit de badigeonner les fruits d'un verger avec une potion somnifère, donc qui provoque artificiellement l'endormissement, pour les faire sombrer dans le sommeil. Le géant, une fois endormi, on peut enfin grimper sur sa cape et bénéficier de ses pouvoirs magiques. Et tu crois que c'est ce qui va arriver ici? Oui, ma grand-mère raconte que les gens du village l'ont déjà fait. Bien avant notre naissance, et que ça a failli tourner à la catastrophe. Il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Après avoir réfléchi, j'ai dit à la valise, « Tu peux parler devant Poppy, c'est mon amie. Elle ne nous trahira pas. Il nous faut aller dans la forêt, voir ce géant de plus près. Peux-tu nous aider ?»« Oui, » a répondu la mallette, « cramponne-toi à ma poignée, et serre très fort la main de Poppy. Ne la lâche surtout pas. Je vais vous conduire là-bas. » J'ai obéi. Alors il s'est passé une chose extraordinaire. La valise est devenue plus légère qu'un ballon de baudruche. Elle s'est élevée dans les airs comme un oiseau, nous entraînant à sa suite, ma copine et moi. C'était merveilleux et effrayant. Très vite, nous avons commencé à voler au-dessus des toits du village, des champs pour atteindre la forêt. Là, la valise a perdu de l'altitude pour se poser au sommet d'une colline. Le voyage avait été si rapide que nous n'avons pas eu le temps d'avoir peur. « Cool !» a soufflé Poppy. « C'est mieux qu'un ballon dirigeable. » La forêt s'étendait autour de nous, épaisse, sombre, nous encerclant de ses arbres énormes. C'est un endroit où personne ne vient jamais, car il a mauvaise réputation. On le prétend habité par des loups-garous. À présent, regardez la cime des arbres, a chuchoté la valise. Si vous la voyez bouger, c'est qu'un géant est en train de se frayer un chemin à travers moi. Il vous faudra aller dans cette direction. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Soudain, à une centaine de mètres devant nous, les branches ont commencé à s'agiter comme sous l'effet d'un vent violent. Tout à coup, j'ai entreaperçu un grand visage verdâtre entre les feuilles. Une tête énorme, aussi grosse qu'un éléphant, auréolée de cheveux, verts eux aussi. J'ai failli pousser un cri. Puis, les branches se sont refermées et l'immense figure a disparu. « Il n'aime pas se montrer, » a expliqué la valise. « Il se méfie des humains. » Le sol tremblait sous les pas du géant. J'avais l'impression de marcher sur la peau d'un tambour. Malgré tout, nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Le spectacle était formidable. Le colosse était si grand que son crâne frôlait la cime des arbres les plus hauts. Ses vêtements semblaient avoir été tissés à partir de lianes et de morceaux d'écorce. Ses cheveux étaient constellés de feuilles arrachées aux branches. Il avançait d'une démarche lourde et hésitante, sans but précis. Quand le passage devenait trop étroit, il écartait les arbres d'un coup d'épaule, arrachant parfois les racines de terre ou faisant éclater les troncs. Des branches brisées et des lambeaux d'écorce ont commencé à pleuvoir sur nos têtes et je me suis dit que nous allions finir piétinés. Il était si pesant que ses pieds nus creusaient des trous dans le sol, des trous assez profonds pour qu'un cheval s'y engloutisse jusqu'aux oreilles. Mais le plus incroyable, c'était l'immense cape rouge fixée sur ses épaules. Elle ruisselait et scintillait comme un fleuve de sang. On n'aurait pas cru du tissu, plutôt une espèce de liquide sinuant qui se déplaçait en se tortillant au ras du sol avec la souplesse d'un immense serpent. J'en ai eu le souffle coupé. « C'est beau !» a bredouillé Poppy, les yeux écarquillés par la stupeur. Pendant un moment, nous avons oublié le vacarme des arbres en train de s'écrouler, des branches arrachées, pour contempler la cape magique qui filait à ras de terre. Poppy a fait un pas en avant, une expression hallucinée sur le visage. « Si je réussis à grimper dessus, je pourrai demander ce que je veux, » a-t-elle balbutié. « Mon vœu se réalisera. J'en ai assez d'être grosse. Je vais tenter ma chance. » Ma grand-mère Mathilda m'a dit qu'il faut rester 10 secondes debout sur la cape pour que ça fonctionne. Je l'ai retenue par le bras. J'ai dit, « Tu es folle, tu vas te faire piétiner. Et puis, la cape se déplace trop rapidement, tu ne pourras jamais la rattraper. » Poppy s'est dégagée d'une bourrade, me repoussant. Elle a crié, « Tant pis, je tente le coup, je vais souhaiter devenir mince et belle. » Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle s'est élancée dans le sillage du géant. Hélas, à cause de son poids, elle ne courait pas très vite. Il faut dire aussi que la cape se tortillait sans cesse comme une queue de dinosaure. Un coup à droite, un coup à gauche. J'avais très peur que Poppy se fasse écraser par un arbre ou que le géant pose le pied sur elle par mégarde. À force de s'obstiner, elle a toutefois réussi à attraper le bout de la cape et à se hisser dessus. J'ai commencé à compter. 1, 2, 3. À 4, Poppy a perdu l'équilibre et roulé sur le sol. C'était raté. J'ai alors constaté que tout ce que le tissu rouge frôlait se réparait comme par miracle. Les arbres brisés se redressaient, les trous dans le sol se bouchaient, les branches cassées se recollaient. « Normal, a dit la valise. C'est à ça que servent les capes magiques, à camoufler le passage des géants pour éviter qu'on puisse les suivre à la trace. C'est leur manière à eux d'effacer leurs pas. » Au fur et à mesure que les géants s'éloignaient, la forêt reprenait son apparence habituelle et se refermait derrière lui. La cape effaçait tout. C'était comme si rien ne s'était passé. Poppy a rebroussé chemin déçu. « J'ai bien failli réussir, » a-t-elle bougonné. « Mais j'avais l'impression d'être sur le dos d'un cheval au galop. Faut un sacré sens de l'équilibre pour rester 10 secondes sans se faire éjecter. » Vous comprenez maintenant pourquoi les humains ne peuvent rien obtenir des géants tant que ceux-ci ne sont pas immobilisés à lancer la valise. Pour profiter des pouvoirs de la cape, il faut pousser les colosses à s'asseoir. Et c'est vraiment catastrophique si ça se produit, ai-je demandé, car j'avais dans l'idée que la valise exagérait la gravité de la chose pour se donner de l'importance. Si tu veux t'en convaincre, marche jusqu'au bout de ce chemin, a répondu le bagage. Tu pourras visiter le village de Moulinon, qui, il y a 15 ans, a réussi à endormir un géant en le gavant de pommes aspergées de somnifères, une drogue qui provoque le sommeil. Comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai dit « Bon, on y va ». Nous avons marché un quart d'heure avant de déboucher dans une clairière. Là, j'ai écarquillé les yeux. En guise de village, nous avons découvert un champ de ruines. Rien que des maisons détruites, incendiées. Quand j'ai voulu avancer, je me suis aperçu que les rues étaient bloquées par les squelettes d'animaux horribles, des dragons sans doute, dont les ossements jaunis bouchaient le passage. « Par le dentier de ma grand-mère, » a juré Poppy. « Regarde un peu, les griffes et les crocs de ces bestioles. » Je ne savais pas qu'il existait des monstres pareils dans la forêt. « Il n'en existait pas, » a coassé une voix derrière nous. « Ce sont les gens d'ici qui les ont créés. »
J'ai sursauté, car la voix ne me semblait pas provenir d'une bouche humaine. Quand je me suis retournée, j'ai vu un drôle de bonhomme sortir des décombres. Il était vieux, très sale, et son visage semblait moitié celui d'un humain, moitié celui d'un crapaud.
Je n'en aurais pas voulu pour fiancé, ça c'est sûr. Les doigts de sa main gauche étaient palmés. Poppy ne s'est pas dégonflée. Elle a regardé l'inconnu droit dans les yeux et demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Jadis, on m'appelait Maître Jacques, a coassé la créature. J'étais le meunier de Moulinon, un joli village en vérité. Aujourd'hui, on me surnomme Crapoton. Je pense que vous devinez pourquoi. J'ai essayé de ne pas avoir l'air trop dégoûté et j'ai lancé. Que s'est-il passé ici? Il y a eu la guerre ou quoi? Et d'où sortent ces squelettes de dragons? « Suivez-moi, mes jolis à ricaner crapotons. Je vais vous faire visiter les lieux. Je suis l'unique survivant de Moulinon. Tous les autres se sont entretués au cours d'une guerre sans merci. Pour traverser le village, il nous a fallu enjamber les ossements de dinosaures entassés au milieu des rues. Certaines façades portaient encore les traces de coups de griffe. À l'intérieur des maisons en ruine, il y avait des squelettes humains à moitié dévorés. Crapoton nous a conduits à la lisière de l'ancien village. Là se dressait un trône de pierre colossal. Un fauteuil de granit assez haut pour qu'un géant puisse s'y asseoir. Tout autour s'étendait un champ de pommiers rabougris. C'est ici que tout a commencé, a marmonné Crapoton. Quand nous avons su qu'un géant se promenait dans la forêt, nous avons décidé de l'attirer chez nous, en plantant des pommiers. Les géants raffolent des pommes. Je sais, ai-je complété. Et vous avez badigeonné ses fruits avec du somnifère, pour l'endormir. Mais ensuite, que s'est-il passé? Le géant, vaincu par l'assoupissement, s'est assis sur ce trône et s'y est endormi, a répondu notre curieux guide. Nous en avons profité pour dérouler sa cape sur l'herbe. Et vous êtes tous grimpés dessus pour formuler des souhaits, a achevé Poppy. Oui, moi le premier, aussi vrai que je m'appelais Maître Jacques. Nous ne savions pas alors que nous mettions la main dans un engrenage terrifiant. La magie est une chose terrible, jeune demoiselle. On s'y habitue vite. Nous avons fini par considérer les miracles comme une chose naturelle. Il nous en fallait toujours plus. Jamais nous n'étions rassasiés. Chaque prodige en appelait un autre. Chacun voulait devenir plus grand, plus beau, plus riche, plus puissant que son voisin. La jalousie a engendré la haine, et la haine a déclenché la guerre. Une guerre de sorciers, terrible, hideuse. La magie de la cape autorisait tous les sortilèges. Certains n'ont pas hésité à créer une armée de dragons. C'est ainsi que Moulinon s'est changé en un tas de décombres. À cette seconde, Crapoton a posé sa patte palmée sur mon épaule. J'ai dû faire un effort pour ne pas frissonner. « Écoute bien, petite, » a-t-il soufflé en approchant son visage difforme du mien. Croisant la parole d'un survivant, « Si les gens de ton village se mettent en tête d'attirer un géant pour user de sa cape, décampe aussitôt. Cours aussi vite et aussi loin que tu peux, avant d'être anéanti par ce qui ne manquera pas d'arriver. Merci du conseil, ai-je bredouillé. Maintenant, je pense que nous allons rentrer chez nous. J'ai reculé, suivi par Poppy. Crapoton nous regardait. Alors que nous nous enfoncions dans la forêt, il s'est mis à gesticuler en criant « La magie, c'est le pire des pièges que les démons ont inventés. » Un piège pour les imbéciles. N'y succombez pas. J'en ai eu froid dans le dos, je l'avoue. Et pourtant, je ne suis pas trouillarde. Enfin, pas trop. Qu'est-ce qu'on fait ? A chuchoté Poppy. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Tu imagines si ce genre de truc arrivait chez nous ? Ça va se produire, a nasillé la valise au bout de mon bras. Du moins, si vous ne tentez rien pour l'en empêcher. Dis-nous quoi faire alors, ai-je crié, car je commençais à être gavé de diablerie. Au bout de ce chemin, à 2 kilomètres, se dresse une tour de guet, a expliqué la mallette. Vous ignorez son existence, car c'est un secret jalousement gardé par les adultes. Au sommet de cette construction, un homme surveille la forêt jour et nuit. Il guette les géants. Si l'un d'eux a la mauvaise idée de prendre la direction de votre village, l'alerte sera donnée. Alors, les gens de chez vous mettront en place un piège semblable à celui que vous avez pu contempler à Moulinon. Un trône de pierre, des pommiers drogués. Vous connaissez la suite.
Je n'en revenais pas. Je commençais à comprendre que les adultes nous cachaient beaucoup de choses. « Marchez jusqu'à la tour de guet, » poursuivit la valise. « Une fois en bas, je vous apprendrai une formule magique qui empêchera le guetteur de voir les géants. Il aura beau scruter les bois, les colosses lui seront désormais invisibles. » J'ai pensé que c'était une bonne idée. Nous avons pris le chemin indiqué. Mes pieds me faisaient mal. Le sentier n'en finissait pas. Enfin, nous avons vu se dresser une immense tour en bois, dont le dernier étage dominait la forêt et permettait de voir jusqu'à la ligne d'horizon. Un homme se tenait accoudé à la rambarde, tout en haut, mais je ne pouvais distinguer son visage. Une échelle interminable permettait d'accéder à la plateforme de surveillance. Une échelle en bois, vermoulue, qui paraissait avoir 200 ans. On y est, a soufflé Poppy, en s'asseyant sur une souche, car elle avait les pieds en sang. Maintenant, il faut que l'une de vous grimpe au sommet, a expliqué la valise. Elle regardera le guetteur bien en face, en prononçant la formule suivante. Castiga, Oxos, Ferris, Murantes, Velanos, Maximus, Arastrix, puis soufflera sur les paupières de l'homme. À partir de cet instant, le guetteur deviendra incapable de repérer un géant, même si celui-ci dansait la guigue sous son nez. « Moi, je ne peux pas monter, je suis trop grosse, a décidé Poppy. « Et si tu nous transportais là-haut par magie, ai-je suggéré à la mallette ?»« Non, a-t-elle répondu. Tu dois payer pour la formule que je viens de te révéler. C'est ça la magie. Il faut toujours payer d'une manière ou d'une autre. Les efforts que tu fourniras serviront de monnaie d'échange. » J'ai examiné l'échelle. Elle devait avoir 3 000 barreaux au moins. Attention, a fait distraitement la valise. C'est une échelle magique, chargée de protéger le veilleur. Si elle devine que tu lui veux du mal, elle mettra tout en œuvre pour t'empêcher de grimper jusqu'à la plateforme. Ah oui, ai-je ricané, elle va lire dans mes pensées? Oui, voilà pourquoi tu devras penser à n'importe quoi, sauf à ce que tu vas vraiment faire là-haut. Récite-toi les tables de multiplication, chante des chansons, mais ne pense surtout pas à ta mission. Je vais oublier la formule magique si je ne me la répète pas tout le temps. Écris-la dans ta main. J'ai pas de crayon. Moi si, est intervenue Poppy. Elle a sorti un feutre de sa poche et a recopié les mots bizarres au creux de ma paume. J'ai ronchonné. Nom d'un haricot bleu. Cette fois, je n'avais plus de prétexte pour éviter de grimper. J'ai dit, j'y vais. On t'attend, a ricané l'agaçante valise. D'en bas, on verra mieux, surtout si tu tombes. Bon, j'ai empoigné le premier barreau en entamant la table de multiplication par 2. 2 × 2, 4, 2 × 3, vous la connaissez? Je ne vais pas vous la réciter. Le bois de l'échelle était poisseux sous mes doigts, comme l'écorce d'un pin imprégné de résine. Ça collait pénible. Comme je l'ai déjà dit, l'échelle était interminable. Elle bougeait dans le vent. J'ai très vite eu froid. Je n'osais pas regarder en bas, je continuais à réciter mes tables en essayant de ne pas penser à ce que je devrais faire une fois en haut. J'avais la trouille de lâcher prise et de tomber. Ça a bien fonctionné jusqu'à mi-hauteur. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que l'échelle magique, à force de sonder mon esprit, a fini par sentir que je lui cachais quelque chose. Des épines ont commencé à pousser sur les barreaux. Vous avez déjà empoigné un rosier à pleine main? Oui. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Au début, les épines étaient toutes petites. Et puis, au fur et à mesure que je grimpais, elles se sont mises à grossir. Comme j'avais mal, j'ai cessé de me réciter les tables de multiplication, si bien que le brouillage qui empêchait l'échelle de lire dans mes pensées est devenu inefficace. Du coup, les épines se sont multipliées. J'avais les mains en sang et je pleurais comme une fontaine. J'ai pensé, il faut tout de même que j'arrive au sommet, sinon le guetteur apercevra le géant et mon village finira comme celui du pauvre crapoton. » Ça me donnait du courage. À un moment, j'ai arrêté de grimper et je suis restée sur le même barreau à chanter une chanson idiote en me concentrant sur les paroles. Les épines se sont faites plus petites. Certaines ont même disparu. Le bois des barreaux est redevenu lisse. Ouf, c'était pas dommage. Le sommet n'était plus très éloigné, mais comme j'avais les mains pleines de sang, j'avais peur de lâcher prise. Alors, je les ai essuyées sur les vêtements. Ça a continué comme ça encore un moment, mais j'abrège, sinon ça deviendrait embêtant. Enfin, j'ai pris pied sur la plateforme, tout au sommet de la tour de guet. Le vent m'a coupé le souffle. On dominait la forêt, on voyait jusqu'à la ligne d'horizon. C'était magnifique. À cause des bourrasques, le guetteur ne m'a pas entendu approcher. Il se tenait penché sur la rambarde, des jumelles rivées aux yeux. J'ai pensé, j'arrive à temps, à ce train-là, il va finir par repérer le géant qu'on a croisé tout à l'heure. Je savais que s'il ne prévenait pas les gens de chez nous assez tôt, ceux-ci n'auraient pas le temps de mettre le piège en place, le trône, les pommes et tout ça, et que le colosse passerait sans s'arrêter. À cet instant, une planche a craqué sous ma semelle. Le veilleur a sursauté. Quand il s'est retourné, j'ai reconnu celui qu'on surnomme Bizu, l'ouvrier communal. « Eh ! » a-t-il lancé un peu étonné. « Je te connais. Tu es la petite Nouchka. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux. » Au lieu de répondre, j'ai regardé dans ma main pour lire la formule magique que j'avais, volontairement, oubliée au cours de l'escalade. Hélas ! Le sang l'avait effacé. Il n'y avait plus qu'un barbouillis illisible. J'en aurais pleuré de rage. Tout ça pour rien. Bizu allait dire un truc quand, soudain, son regard a été attiré par quelque chose sur la droite. Il s'est détourné pour s'appuyer à la rambarde. J'ai compris qu'il avait repéré le géant. C'était fichu. Je ne pouvais plus rien faire. C'est ça. C'est bien ça, a-t-il bredouillé tout excité. Et il s'est précipité sur la cloche pour donner l'alarme. Le tintement s'est envolé par-dessus la forêt en direction du village. Désormais, tout le monde savait qu'un géant se promenait dans le coin et qu'il fallait se hâter d'installer le piège dans lequel il ne manquerait pas de tomber.